Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission Chemin Roxham, on a beau annoncer un règlement probable entre les États-Unis et le Canada, mais comment gérer la question des demandeurs d'asile plus précisément, plus efficacement? L'Allemagne fédérale pourrait-elle nous inspirer une manière de distribuer, par exemple, les demandeurs d'asile dans les différentes parties du territoire? On en discute avec le politologue Daniel Bélan de l'Université McGill. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec nos amis du bureau parlementaire.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie.
Mais bonjour Geneviève Lajoie.
Bonjour Antoine.
Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Tu veux nous montrer aujourd'hui que les élus de Québec solidaire ont marqué des points cette semaine en Chambre.
Oui, bien tu sais que ça s'appelle à l'Assemblée nationale la période de questions. Celle qui est retransmise, qui est très médiatisée.
Question et réponse orale maintenant.
Oui, mais en tout cas, entre nous, on l'appelle bien la période de questions, puis c'est pas pour rien, c'est parce qu'on n'a pas tout le temps des réponses. Hein,
oui.
Pas souvent, on peut le dire. Mais cette semaine, il faut souligner les gains quand même réalisés par deux solidaires.
Des gains
parce qu'ils ont eu des réponses.
Ah!
Juan, voilà, c'est ce que je veux dire. Petite parenthèse.
C'est d'ailleurs l'avantage de l'Assemblée nationale du Québec par rapport à la Chambre des communes à Ottawa, où c'est souvent des cris puis des réponses qui n'ont pas rapport avec la question. Ici, il y a quand même encore un semblant de discussion rationnelle.
Oui, puis il y a des règles qui, en théorie, tu es supposé de répondre à la question. Mais bon, il y a toutes sortes de...
Article 79.
Oui, il y a toutes sortes de subterfuges qui te permettent de finalement pas répondre. Mais cette fois-ci, franchement, cette semaine, il faut le dire, on a eu deux grandes réponses importantes en plus.
Mmh.
On se souvient tous de l'incendie mortel dans le vieux Montréal là, qui a soulevé d'importantes questions sur l'encadrement d'Airbnb.
Oui.
Donc là, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui... Mardi, donc pendant que nous, toi et moi, on était au huis clos.
Oui.
Malheureusement.
On était enfermés.
Oui, on était dans le huis clos du budget.
Mais t'aimes ça, les huis clos?
Non, pas du tout.
Non?
Non, j'aime.
Moi, j'aime beaucoup cette journée du budget sans téléphone.
Mais moi, j'adore pas de téléphone.
Oui.
C'est plutôt être enfermé dans cette salle-là.
Ah oui.
À parcourir une brique budgétaire pendant des heures. Je t'avoue que j'ai un petit peu mal à la tête en sortant de là.
C'est comme une chasse au trésor.
Oui, mais il y avait très peu de trésors cette fois-ci. On savait tout ce qu'il y avait à l'intérieur du budget avant le budget. Donc...
C'était assez prévisible.
Exactement.
On ferme la parenthèse. Donc, voilà. Pendant qu'on était enfermés, que s'est-il passé?
Oui, donc, on parle d'Airbnb. Il y a GND Gabriel Nadeau-Dubois, qui a réussi à avoir un engagement ferme du premier ministre, qui n'est pas rien, à revoir la loi qui encadre Airbnb pour rendre l'entreprise donc responsable des annonces illégales publiées sur son site. Puis, je pense qu'on a l'extrait d'ailleurs.
On l'écoute.
Est-ce qu'il s'engage, d'ici la fin de la session parlementaire, à revoir la loi qui encadre Airbnb? Pourquoi? Pour rendre responsable l'entreprise des annonces illégales qui sont publiées sur son site, oui ou non?
La réponse est oui. Je pense qu'on a fait des efforts et je pense qu'on doit aller plus loin puis qu'on doit rendre responsables ces sites. Puis avec la collaboration, je l'espère, de toutes les oppositions, je pense qu'on est capable de faire ça avant la fin de la session.
Bien, je salue ce changement de position et j'assure le premier ministre que ma formation politique va collaborer à l'adoption du projet de loi parce que le temps presse, on aurait dû le faire il y a des années. On sera au rendez-vous pour travailler avec le gouvernement pour qu'enfin on rende cette multinationale-là responsable.
Wow! C'est assez rare qu'on entend ça, hein?
Oui.
C'est harmonieux.
Oui.
C'est un accord parfait.
Hein? Il y a plus d'harmonie qu'on le dit, parce qu'on met souvent l'accent, nous, les journalistes, oui. Parce qu'une nouvelle, c'est un train qui n'arrive pas en retard, mais on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure.
Oui, mais bon, on n'entend pas les secondes qui suivent, là.
Oui.
Puis où la partisanerie reprend ses droits.
Ah oui, c'est
vrai.
Je
peux te le dire tout de suite après. Mais reste que pendant donc quelques secondes, il y a eu une entente là-dessus. Et le premier ministre a répondu, tu sais, il s'est engagé concrètement à ce qu'on revoit, donc, cette loi, qui visiblement, là, il y a des trous, il y a des choses qui ne fonctionnent pas.
Ben oui.
On entendra certainement parler encore dans les prochaines semaines. Parce
ce matin, dans les points de presse, là, les deux partis, Québec solidaire et Parti québécois, ont dit que lorsqu'ils ont étudié la loi qui est actuellement en vigueur, ils avaient proposé des resserrements déjà qui vont probablement être là adoptés et qui avaient été rejetés dans le temps.
Mais là, c'est sûr qu'avec la pratique et là, avec les mois qui passent, les années qui passent à vivre avec cette loi-là, on se rend compte des manques dans cette loi-là, des trous, et c'est ce qu'on va vouloir resserrer. Donc, il a dit, si je ne me trompe pas, d'ici la fin de la session.
Oui.
Donc, c'est assez rapide. Hein? Voilà.
Deuxième sujet maintenant, deuxième moment où il y a eu réponse à la période de questions.
Oui, écoute, deux fois dans la même semaine, c'est pas rien. Donc, on souligne donc le succès de la députée. Cette fois-là, c'est la députée solidaire Ruba Gazal. Bon, elle est venue en chambre, elle a raconté avec émotion d'ailleurs, il faut le dire, sa rencontre avec des élèves de la polyvalente Massé-Vanier à Cowansville qui disent subir des agressions sexuelles depuis des années de la part d'un garçon sans que l'établissement prenne les choses au sérieux et agisse. Donc, elle a posé une question à ce sujet-là à l'Assemblée nationale au ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, et lui aussi, aussitôt, s'est levé, répondu qu'il déclenchait instantanément une enquête générale en lien justement avec les multiples dénonciations puis allégations d'inconduite sexuelle qui ont été mises au jour au cours des dernières semaines. On passe pas une semaine sans entendre des choses qui se passent dans les écoles.
Donc, oui, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y en a plus ou c'est que simplement ça se discute davantage?
Ce n'est pas une mauvaise chose là, que les informations sortent, mais effectivement, là, on verra. Mais visiblement, donc, le ministre de l'Éducation était assez touché par ça, déclenchait automatiquement une enquête. Puis, je pense que tu as l'extrait d'ailleurs.
Oui. On l'écoute.
Hier, j'ai vécu un moment très émouvant. J'ai été invitée par le collectif La Voix des jeunes comptes à me rendre à la polyvalente Massé-Vanier à Cowansville. Des élèves de cette école vivent des agressions sexuelles allant jusqu'au viol depuis des années par un jeune garçon. Ça fait un an et demi que ces élèves et leurs parents dénoncent les agressions auprès de la direction de l'école, auprès de la commission scolaire, mais rien n'a été fait pour réellement les protéger. Exaspérés, les parents et les élèves, hier, ont lancé un cri du cœur que j'ai entendu. J'ai vu de jeunes filles pleurer. Leur témoignage brise le cœur. Il y en a une qui disait, l'école parlait à l'élève pour lui dire d'arrêter, mais il n'a pas changé son comportement. Une autre disait, parce qu'elles ont porté aussi plainte à la police, elle a dit, moi, j'ai senti plus d'écoute de la part de la police que de l'école. J'ai peur d'aller à l'école. Est-ce que le ministre trouve normal que des victimes qui sont des mineurs d'agressions sexuelles se sentent tellement pas en sécurité dans les écoles? Quels sont leurs parents? Doivent dénoncer l'enfer qu'elles vivent dans les médias et à la police?
Les cas d'allégations concernant des agressions de nature sexuelle se multiplient au Québec. Et je veux lire le texte suivant à l'Assemblée. C'est un document que je viens de signer juste avant d'entrer en chambre. Acte de désignation et de mandat d'enquête générale. À la suite de multiples dénonciations et d'allégations d'inconduite de nature sexuelle ou de comportement inadéquat portés à l'attention du ministère de l'Éducation survenu dans le réseau de l'éducation, et là je donne quelques exemples, Chemin du Roi, Pointe-de-l'Île, il y a également un autre cas, Centre de service scolaire des Patriotes, je désigne les fonctionnaires de la Direction générale des affaires internes du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur pour exercer les pouvoirs d'enquête que ces articles confèrent.
Alors, ces deux extraits, donc, datent de mardi.
Oui. C'était vraiment une période de réponse.
Voilà, une période de réponse, exactement. Puis ce rapport-là, donc, cette enquête-là qu'a annoncé le ministre Drainville, devra être remis d'ici le 2 juin au ministre. Et puis il y aura un rapport final, donc, au 31 juillet. Donc, on s'attend concrètement à ce que ça soit réglé avant le début de l'année prochaine, la prochaine année scolaire. Là. Donc, puis juste à préciser que les enquêteurs ont même des pouvoirs s'apparentant à ceux d'une commission d'enquête. Là.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas drôle qu'on soit rendu là, il faut le dire. Là.
Ben non.
C'est pas drôle qu'on soit
c'est
rendu
terrible.
Là. Mais j'ai hâte de voir là, si les enquêteurs, puis c'est des enquêteurs du ministère, vont pouvoir effectivement faire tout ça d'ici le 2 juin prochain et que ce genre de situation ne puisse plus jamais arriver, là, évidemment.
Ben oui, puis c'est très, très peu balisé. C'est large, comme c'est une enquête générale. Donc,
oui, est-ce que justement ça créera peut-être d'autres problèmes, là? Bien sûr, on va suivre ça avec attention.
Une autre question par un membre de Québec solidaire a attiré ton attention aujourd'hui, mais pas pour les mêmes raisons que les deux premières que tu as mis en relief.
Non, lui a eu un petit peu moins de chance. Hein?
Qui?
Étienne Grandmont, le solidaire Étienne Grandmont, qui a eu beaucoup moins de chance parce que, évidemment, il a abordé le sujet du troisième lien
oui. Dans
sa question. Un sujet qui, maintenant, est tabou au gouvernement du Québec, hein, faut le dire, là. Et que serait pour nous une journée, pour les journalistes de la colline parlementaire, sans parler du troisième lien?
Eh oui!
Alors, Étienne Grandmont qui voulait savoir si le troisième lien allait véritablement se faire. C'est la question que tous les Québécois se posent en ce moment, justement parce que les dernières sorties des différents ministres, même du premier ministre, on ne sait plus quoi penser, là. On dirait qu'ils ne veulent plus répondre aux questions. Il s'est fait questionner cette semaine, le premier ministre François Legault. Est-ce qu'il va avoir des voitures, là, sur le troisième lien, qui vont passer sur ce troisième lien ou dans ce troisième lien? Hein? Mmh. Faut pas oublier que c'est un bitube.
C'est ça.
On n'a pas de réponse. Jonathan Julien, pareil. Et aujourd'hui, ben, c'est Geneviève Guilbeault, une ministre pourtant championne des communications, qui a esquivé complètement la question et qui a fait quoi? Qui a précisé que finalement, ce qui est important pour le troisième lien, ben, c'est le transport en commun, notamment. Hein? Elle a vraiment précisé, elle a insisté sur la place qu'occupera le transport collectif dans son projet de tunnel. Écoute, c'est jamais vu. Donc, ne pas répondre à la question sur est-ce qu'il y aura des voitures, finalement, ou est-ce que ce sera, finalement.
Puis elle aussi, elle répond plus aux questions.
Non.
J'ai entendu quelqu'un dans la salle de rédaction tout à l'heure dire que on la cherche tellement souvent, Geneviève Guilbeault, qu'on se demande s'il ne faudra pas mettre sa photo sur une pinte de lait.
Effectivement, parce que dans les corridors de l'Assemblée nationale, je te dirais là, que c'est difficile de la trouver. On se demande si elle n'a pas été piquée par le même virus que son collègue François Bonnardel, qui, lorsque lui aussi était ministre des Transports, bizarrement, et qui avait donc le dossier du troisième lien entre les mains.
C'était le
Houdini. On ne le voyait plus.
Houdini des points de presse. Fou, il disparaissait.
Oui, on ne le voyait plus non plus. Alors que Geneviève Guilbeault, avant, elle adorait répondre aux questions des journalistes, s'arrêter. Et puis, ben non, maintenant, on la voit beaucoup moins dans les corridors de l'Assemblée nationale.
Ben merci beaucoup, Geneviève Lajoie.
Ça fait plaisir.
Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Le chemin Roxane revient depuis 2016 en tête des sujets d'actualité. C'est le cas aujourd'hui avec la possibilité d'une entente entre les États-Unis et le Canada. Et en matière de gestion des demandeurs d'asile, les mesures et programmes développés par l'Allemagne pourraient-ils inspirer le Québec et le Canada en ces matières? On en parle avec Daniel Bélan. Bonjour.
Bonjour.
Alors, M. Bélan, vous êtes directeur de l'Institut canadien de McGill et vous êtes co-auteur d'un article dont on va parler, le chemin Roxham et les leçons de l'Allemagne. Mais d'abord, l'actualité, avant même l'arrivée de Joe Biden à Ottawa, on apprend qu'on annoncera probablement dans les prochaines heures la fermeture du chemin Roxham. Avez-vous été surpris?
Ben, ça se fait assez rapidement. Le problème, évidemment, c'est qu'on n'a pas de détails sur l'entente en tant que telle. Donc, moi, j'attends de voir Bon, quelle est l'entente? Est-ce que c'est une révision de l'entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs dont on parle depuis longtemps? Ou est-ce que c'est une autre entente? Et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement? Parce que, évidemment, une entente, c'est bien, mais est-ce que ça va vraiment régler le problème? Parce que oui, on peut fermer le chemin Roxham, mais les gens vraiment pourraient passer ailleurs. Donc, il pourrait y avoir toutes sortes de situations qui pourraient se produire. Donc, je pense que c'est important d'attendre de voir le texte de l'entente qui, il paraît, en tout cas, ce que j'ai lu, c'est que le texte lui-même, les détails ne seraient pas encore finalisés.
Ah bon?
Donc, on pourrait annoncer la fermeture du chemin Roxham, mais on va voir les détails plus tard.
Mais on s'entend que pour qu'une fermeture du chemin Roxham soit efficace et adéquate, il faut changer l'entente sur les pays tiers sûrs ou les tiers pays sûrs. Je ne sais jamais comment, dans quel ordre le dire.
Les tiers pays sûrs, oui, voilà. Je suis d'accord. Il faudrait soit abolir cette entente-là, la remplacer par une autre ou la modifier. Parce que si on fait seulement fermer le chemin Roxham sans changer rien à l'entente actuelle, ben le problème va continuer, mais ça va être délocalisé ou ça pourrait être pire. Il pourrait y avoir plus de gens qui vont essayer d'utiliser d'autres points d'entrée. Ça va être plus difficile à contrôler. Il pourrait y avoir aussi plus de gens qui feraient affaire avec des trafiquants du trafic humain ou en tout cas des gens qui paieraient des intermédiaires pour passer la frontière à différents endroits sans se faire repérer. Donc, je pense qu'il faut absolument trouver un moyen de régler cette situation-là avec une entente donc bilatérale avec les États-Unis. Mmh. Mais encore là, s'il y a une entente, ça ne veut pas dire que c'est une bonne entente, parce que on le voit, on a déjà une entente depuis 2004, là,
oui.
L'entente sur les tiers pays sûrs, et puis on voit qu'il y a des brèches dans l'entente, et donc, s'il y a une entente, c'est bien, moi je veux la voir pour savoir si c'est une bonne entente ou pas.
On peut la suspendre aussi, cette entente-là. Est-ce que c'est une option, selon vous?
Oui, mais il faut la remplacer par quelque chose d'autre.
Ah oui.
D'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est peut-être ce qu'on va faire. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux.
J'avais compris, moi, M. Bellan, puis c'est très complexe. Donc, vos lumières sont importantes. Je pensais que si on la suspendait, l'entente, bien, chaque réfugié devient comme ces réfugiés qui se présentent à l'aéroport, un peu comme ce que François Legault nous a dit ce matin dans le couloir ici à Québec. Et donc, est-ce que c'est ça serait pas une solution, ça, de suspendre simplement, fermer le chemin Roxham, faire en sorte, comme ça, chaque demandeur d'asile ferait la demande à partir des États-Unis? Ou même, comme quand il arrive à l'aéroport?
Tout à fait. C'est une possibilité, mais je pense que, quand on parle de l'entente, moi, ce que j'ai lu au sujet de l'entente, là, donc, c'est sur le site web d'un de vos compétiteurs.
Oui, oui, Radio-Canada.
Que le Canada s'engagerait à accepter un certain nombre de réfugiés qui seraient en provenance des États-Unis. Donc, il y aurait une certaine formalisation. Donc, je sais pas, j'imagine que c'est pas seulement si on même suspend ou on remplace l'entente, il va y avoir un cadre quand même, il va y avoir quelque chose d'autre, mais je sais pas encore c'est quoi.
Donc, une espèce de quota que le Canada accepterait?
Le Canada pourrait s'entendre à accueillir un certain nombre de réfugiés par année en provenance des États-Unis. C'est une possibilité, mais encore là, puis même si c'était ça, je sais pas c'est quoi les chiffres, ça va être quoi le quota.
Ouais.
Donc, encore là, il faut attendre les détails. C'est sûr que politiquement, pour le gouvernement Trudeau, c'est bien d'annoncer ça, qu'on va fermer le chemin Roxham, mais est-ce que ça va vraiment régler le problème?
Voilà.
Les réfugiés, vous savez, c'est un problème mondial.
Ben oui.
Nous, au Canada, on est chanceux au Québec d'une certaine façon, parce que on n'a pas vécu des vagues là, de demandeurs d'asile, comme en Allemagne, par exemple, en 2015-2016, ou ce qu'on a vu, évidemment, dans des pays comme la Turquie, des pays voisins de la Syrie, donc la Turquie ou la Jordanie, où là, c'est vraiment des énormes. Nous, ce qu'on a vu, c'est important pour nous, dans notre histoire, ce qui se passe au chemin Roxham. Il ne faut pas oublier que des pays qui font face à des vagues beaucoup plus importantes et qui ont moins de contrôle encore que nous sur ce qui se passe. Pensez aussi à Colombie par rapport au Venezuela, on n'en parle pas beaucoup. Et puis en Afrique aussi. Donc, il y a des situations où nous, on est habitués d'avoir le contrôle.
Oui.
Hein, on dit, ah oui, on va dans les camps de réfugiés là, en Jordanie puis en Turquie, puis on sélectionne nos réfugiés puis on les amène ici au Canada. Il y a des familles qui les sponsorisent même ou des groupes.
Ouais.
Mais ça, c'est un luxe qu'on a eu jusqu'à tout récemment.
Mm-hmm.
Mais
on a eu des petites vagues, comme par exemple les Vietnamiens, ce qu'on appelait les boat people dans les années 70.
Voilà. Oui.
Les Haïtiens aussi, il y a toute cette période où Jacques Couture, là, était le ministre de René Lévesque de l'immigration, où on a eu une amnestie, je pense, pour les Haïtiens, puis les boat people qui ont marqué le Québec. Mais
c'est des vagues, hein?
Mais c'est des petites vaguelettes par rapport à ce qu'ont vécu les pays dont vous parliez.
Voilà, exactement. Donc, en fait, ce qui a changé ici récemment, là, si on parle de l'histoire récente, parce que oui, on a eu les boat people et puis on a eu d'autres vagues de réfugiés, les Haïtiens. Puis les Québécois ont fait preuve d'une grande solidarité, puis les ailleurs au Canada aussi. Il y a eu des gens de solidarité, on l'a vu pour les réfugiés syriens aussi, mais c'était différent, les réfugiés syriens, parce qu'ils n'arrivaient pas directement ici. Ils étaient dans des camps à l'étranger souvent, puis ils venaient par des intermédiaires ou après une sélection. Mais ce qu'on parle, ce qui se passe avec le chemin Roxham, c'est vraiment un point tournant. C'était 2007, l'arrivée de Donald Trump donc à la Maison Blanche comme président.
2016,
et c'est là,
oui.
On a commencé à voir ces vagues de gens qui, en fait, ils vont à Plattsburgh et puis à Plattsburgh, vous prenez un taxi, puis ça prend une demi-heure, même pas une demi-heure, puis vous êtes à la frontière.
Ouais.
Puis il y a des compagnies de taxi même qui offrent des rabais aux gens qui veulent faire le voyage à la frontière. Donc c'est bien organisé là, mais ça fait seulement à peu près 5 ans qu'on voit ça. Puis au début de la pandémie, ça avait arrêté ça ou presque totalement.
Oui.
Mais là, ça a recommencé évidemment. Puis l'an dernier, on a eu des chiffres quand même très importants.
On est rendu à près de 40 000.
Voilà. Mais encore là, 40 000, c'est beaucoup pour nous. On n'est pas habitué à ça. Mais quand on compare les chiffres avec ce qu'on a vu dans d'autres pays européens en 2015-2016, ou qu'on voit dans des pays en Amérique latine ou au Moyen-Orient, c'est quand même, encore là, même en tenant compte de nos populations, c'est une vague importante, mais c'est pas aussi dramatique que ce qu'on a vu ailleurs.
Maintenant, l'exemple de l'Allemagne que vous présentez dans votre texte, et là, je dis que je veux donner la bonne référence, Option politique, le titre, c'est « Le chemin Roxham et les leçons de l'Allemagne », vous co-signez avec Jennifer Elric. Là, vous dites dans ce texte-là que la redistribution des réfugiés entre les provinces pourrait fonctionner avec une formule de financement et l'infrastructure requise. Et comment l'Allemagne peut nous inspirer là, cette formule de financement-là puis l'infrastructure?
Oui, donc ce texte, oui, il est paru dans Options politiques, qui est la revue de l'IRPP, qui est un centre de recherche là, qui est d'ailleurs sur la rue Peel à Montréal, ici à Montréal.
Ouais.
Et donc, dans cet article-là, qui est écrit avec Jennifer Elric, qui est une prof de sociologie à McGill, moi je suis en sciences politiques, et en fait, Jennifer Elric, elle a déjà travaillé en Allemagne dans un centre de recherche sur l'immigration au moment où il y avait cette vague de réfugiés qui venaient de la Syrie et de d'autres pays là, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Alors, elle a travaillé là sur le terrain, donc elle a vu ce qui se passait. Et c'est vrai que l'Allemagne, c'est un pays qui est très bien organisés, évidemment. Ils ont cette réputation-là. Et en matière d'immigration, ils sont très organisés aussi. Alors, ils ont un système de quotas pour leurs États, hein, les Länder, donc ils en ont 16 en tout. Puis chaque État, il y a un nombre, il y a un pourcentage de réfugiés qui est alloué par État en fonction de leur population, mais aussi de la richesse de cet État-là. Donc, les États qui sont les plus riches, proportionnellement, par rapport à leur population, reçoivent plus de réfugiés que les États plus pauvres. Donc, si on faisait ça au Canada, ça voudrait dire qu'une province comme l'Alberta, par exemple, recevrait proportionnellement plus de réfugiés que, par exemple, le Nouveau-Brunswick ou même le Québec, parce que elles sont plus riches.
Oui.
Donc, c'est le modèle allemand. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une formule, là, ils appellent ça la clé de Königstein. Et cette formule-là, elle est très claire. Et ça a commencé en 1982, puis en Allemagne de l'Ouest. Et après la réunification, on a modifié cette formule-là. Mais c'est très clair et c'est accepté par les États. Et c'est très bien réglé comme système là. C'est une allocation qui est quasi automatique parce que tout est calculé d'avance en fonction de cette formule là.
Donc ça permet au fond de bien redistribuer les réfugiés dans l'ensemble de la Fédération allemande.
Voilà, exactement. Ça a des avantages, hein?
Oui.
Parce que ça limite la bisbille politique, ce qu'on a vu d'ailleurs au Québec récemment, au Canada. Bon, François Legault qui était pas content, qui voulait qu'on envoie les réfugiés ailleurs. Là, on le fait, mais pas assez encore, d'après M. Legault. Alors, on voit. Alors qu'avec une formule comme ça, c'est comme la formule de péréquation. c'est normalement difficile à changer une fois que c'est mis en place.
Oui.
Les gens peuvent critiquer, mais il y a quand même un système Et puis en Allemagne, c'est bien rodé comme système. Et donc, ça a beaucoup, ça a des avantages. Ça a aussi des inconvénients, mais, si on peut en parler si vous voulez.
Oui, oui, oui. Mais avant qu'on parle des inconvénients, vous quand même, vous doutez que ça puisse être transposé complètement au Canada à cause de ce que vous appelez le fédéralisme exécutif. Le fédéralisme exécutif, ça, c'est le fédéralisme dominateur qui envahit les champs de compétences des provinces?
Non, dans ce qu'on parle de fédéralisme exécutif dans le langage des spécialistes du fédéralisme et des politologues, c'est le fédéralisme où vraiment tout se décide entre les premiers ministres, puis où les ministres provinciaux et fédéraux, bon, ils s'assoient à une table et puis ils font des c'est comme des ententes un peu, là, ad hoc, comme on dit, donc il n'y a pas vraiment de formule, mais on négocie, puis on dit « ah oui, on va faire ça ». Et donc, ce fédéralisme exécutif-là, en fait, se prête un peu moins à ce genre de système par formule, mais ça serait possible de le faire, parce que si on le fait pour la péréquation, on pourrait le faire pour autre chose. Mais la péréquation, évidemment, c'est purement fédéral, alors que l'immigration, c'est une juridiction partagée maintenant, surtout depuis l'accord de 1991 entre le gouvernement du Québec et le fédéral.
Et donc, l'accord Colin Couture au départ, puis après ça, McDougall, Gagnon-Tremblay.
Voilà.
Et donc, vous dites qu'il y a des désavantages quand même à ce système où, par exemple, dès qu'un demandeur d'asile dépose une demande, ben là, il y a un système électronique qui détermine automatiquement l'État qui va traiter son dossier. C'est ça que vous décrivez. Mais ça veut dire qu'il y a une limite à la liberté de circulation de la personne.
Voilà, et ça au Canada, surtout avec la Charte canadienne des droits et libertés, ça pourrait causer problème.
Ouais.
Mais évidemment, là, on ne parle pas de citoyens ou même de résidents permanents à ce stade-là.
En même temps, oui, c'est donc, ça.
Mais l'idée ici, c'est, oui, c'est automatique. Et le problème, c'est que, par exemple, si vous... Bon, vous êtes un réfugié, puis vous avez de la famille à Montréal, mais qu'on vous envoie à Vancouver, en Colombie-Britannique, bon, c'est ça que ça peut...
être problématique,
oui. Dissuader même des gens de venir, en fait. Et il y a des gens qui pensent que c'est une bonne chose, il y en a qui pensent que c'est une mauvaise chose, évidemment. Mais il y en a qui critiquent ce système-là comme étant un peu... c'est pas un système très humain, parce que c'est très, très rigide, et justement parce qu'une formule, c'est automatique, puis vous avez pas de mot à dire. Mm-hmm. Au Québec, puis au Canada en général, un problème aussi serait la question de la langue.
Oui.
On prendrait en considération la langue, parce qu'on a vu des cas récemment de francophones, des demandeurs d'asile qui ont été envoyés dans des parties complètement anglophones dans l'Ontario, et là, qui n'ont pas accès de services en français, qui ne parlent pas anglais. Ça cause des problèmes pour eux, évidemment, comme réfugiés, mais aussi pour le Québec, on aimerait bien quand même, quand on prend des réfugiés, qu'on ait plus de réfugiés francophones, ou même qu'ils soient la grande majorité d'entre eux, puissent parler français, même s'ils ne sont pas francophones, au moins qu'ils puissent parler français. Mais dans un système comme ça, il faudrait ajuster cette formule-là pour tenir en compte des langues officielles, ce qu'on ne fait pas en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ben, c'est l'allemand. Hein? Il n'y a pas de dualité
c'est
linguistique
clair.
Comme on l'a au Canada.
Oui. Et j'ai été intrigué par la carte d'identité dont vous parlez, carte d'identité nationale. Le réfugié ou le demandeur d'asile se fait remettre cette carte-là, puis ça permet vraiment d'avoir des données. Là, je pense que Christian Dubé, qui aime beaucoup les tableaux de bord et les données, il serait ravi. Et pourquoi? C'est une bonne idée. Pourquoi on ne ferait pas ça ici?
Ben, écoutez, le problème encore là, c'est plus la question du respect de la vie privée, là.
Ah, oui.
Mais ça veut pas dire qu'on pourrait pas le faire, hein. Mais il y aurait peut-être des gens qui seraient pas trop contents, C'est la question de la confidentialité des données. Bon. Et donc, ça se fait. Et d'ailleurs, c'est pas seulement en Allemagne, hein. Des cartes d'identité nationale, il y en a en France, il y en a dans beaucoup de pays. Et c'est vrai que souvent, c'est utilisé pour, sur le plan des données, et ça peut être très utile pour l'État, mais en même temps, il y a la question justement de la confidentialité. Donc,
ouais.
Je pense que nous, on est un peu chatouilleux à ce niveau-là, et je pense qu'il y a des bonnes raisons à cela, hein? Mais c'est sûr que ce qui se fait en Allemagne, encore là, il y a des choses qui se transposent assez facilement.
On a quand même un numéro d'assurance sociale, on pourrait peut-être passer par ça.
Ils ont des données sur nous, là. Il faut pas se leurrer.
Ben non.
Mais c'est sûr qu'un système avec une carte d'identité nationale comme ça, ça rendrait le système encore, plus imposant. Et donc, ça serait peut-être une menace potentielle. En tout cas, pour ceux qui défendent vraiment la confidentialité, là,
ouais.
qui sont très préoccupés par cet enjeu-là, ben, c'est sûr qu'ils verraient ça d'un mauvais œil. Donc, je pense pas que ça va arriver, ça, au Canada en tant que tel. Donc, c'est pour ça que si on adoptait le modèle allemand, on l'adapterait.
Oui.
C'est très rare rare qu'on va dans un pays étranger ou dans une autre province, qu'on prend la politique publique, qu'on prend le programme, puis qu'on on l'implante sans changement. Il faut toujours adapter au contexte. Oui. Et le contexte canadien-québécois est très différent du contexte allemand. J'ai parlé de la question linguistique. En Allemagne, vous savez, ils dépensent beaucoup d'argent pour que les réfugiés apprennent l'allemand. Puis l'allemand, vous savez, c'est une langue difficile. Hein? Les gens se plaignent, oh, le français, c'est difficile. Essayez d'apprendre l'allemand. Moi, j'ai essayé, puis ça n'a pas été trop un gros succès. C'est pas une langue facile. Donc, eux, ils dépensent beaucoup d'argent pour la question aussi que les réfugiés puissent apprendre l'allemand très rapidement, parce que sans ça, ils ne pourront pas se trouver d'emploi. Si vous ne parlez pas allemand en Allemagne, c'est difficile, surtout à l'extérieur de grandes villes comme Berlin ou Munich. Et donc, c'est la même chose au Canada pour l'anglais dans les provinces anglophones et pour le français au Québec et dans certaines régions du Nouveau-Brunswick.
Merci beaucoup, Daniel Bellan, directeur de l'étude de l'Institut d'études canadiennes de McGill et co-auteur de cet article vraiment éclairant, Le chemin Roxham, les leçons de l'Allemagne, avec Jennifer Elrick. C'est dans Options politiques. Je vais le mettre sur la page Facebook de l'émission. Merci encore, M. Bellan. Au plaisir.
Ça fait plaisir. Bonne fin de journée.
Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais il y a aussi le bon vieux bouche à oreille. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.